L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. On va plonger plutôt aujourd'hui, risque au rêve. Le nom est joli, mais il n'est pas question de rêve. En revanche, il est bien question de risques. Des risques côtiers qui se profilent sur nos horizons maritimes. Peut-être un peu moins en Bretagne que sur d'autres littoraux, mais tout de même. Le changement climatique va dans le sens d'une élévation du niveau de la mer. Donc les vagues, les eaux seront de plus en plus offensives et gagneront sur les terres. Or, nous adorons nous poster sur le rivage et même habiter avec vue sur mer. Voilà pourquoi il est important que les scientifiques établissent le degré de danger potentiel le plus précis possible. Ensuite, il faut le faire comprendre aux populations concernées. Dans Risque au rêve, si rêve il y a, c'est plutôt en fait la réalité virtuelle. Un bon outil pour s'immerger au sens figuré. Risque au rêve, c'est aussi et surtout un dispositif de formation pour les étudiants en géographie du Master 2 EGEL de l'UBO, Université de Bretagne Occidentale, et les élèves ingénieurs de l'ENIB, autre école de Brest. Autour de cette table, il y a Pauline Le Tortue, qui est enseignante-chercheure en géographie à l'UBO, Maxime Kernet, qui est ingénieur pour le développement de la réalité virtuelle, également à l'UBO, et Riwalen Ruot, qui est ingénieur pédagogique, également à l'UBO. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Quel bel ensemble. Alors Pauline, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est le risque et surtout le risque auquel s'expose le Finistère, les côtes du Finistère?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, revenons aux bases. Qu'est-ce qu'un risque? En fait, c'est la conjonction d'un aléa et d'enjeu. Alors un aléa, c'est un événement potentiellement dangereux. Et un enjeu, ce sont des personnes, des biens, des activités que l'on risque de perdre. Et donc c'est la conjonction des deux qui va faire qu'on a un risque. Et donc, par exemple, en Finistère, on a un long linéaire de côte et donc on est affecté par les risques côtiers. Alors en fait, il y a trois types de risques côtiers qui sont en lien en fait, avec des aléas côtiers, c'est-à-dire qu'on a l'érosion côtière, le fait qu'on perde du matériel sur les plages, sur les falaises.
Donc, du matériel physique, de la terre, de la roche.
Et donc ça se traduit effectivement par le recul du trait de côte ou l'abaissement du niveau de la plage. En autre aléa, on a la submersion marine, c'est-à-dire qu'on a l'envahissement temporaire de terres qui sont habituellement émergées mais qui se retrouvent au moment d'une tempête immergées. Et puis on a également le phénomène de migration dunaire, le fait qu'on ait effectivement des migrations de sable qui peuvent être importantes, qui peuvent par exemple recouvrir des routes ou bien des habitations, par exemple le rez-de-chaussée. Et donc effectivement, en Finistère, on est surtout affecté par le risque d'érosion côtière et de submersion marine, sachant que les deux sont liés, c'est-à-dire que lorsqu'on a de l'érosion, on a une perte de matériel sur les plages, ça veut dire que cette plage elle va être moins à même de résister à l'attaque des houles de tempête et donc plus propice au phénomène de submersion. Et puis pareil, lors d'un épisode de submersion, lorsque la terre est envahie par la mer, eh bien, il y a des phénomènes d'érosion qui sont massifs. Donc les deux sont liés. Et donc effectivement, on a des territoires qui peuvent être soumis aux risques côtiers, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux sur ces territoires qui sont menacés par des aléas. Alors, c'est surtout le cas des côtes basses sableuses qu'on a poldérisées.
Poldérisées, ça veut dire habiter sur la mer, quoi. Enfin, sur ce qu'était la mer.
Au départ, c'était des terrains agricoles qu'on a gagnés sur la mer. Donc, en fait, le terrain, il est sous le niveau marin, mais on a mis une digue devant. Ça, on a mis en place des drains, donc on a évacué l'eau. On a mis en place des terrains agricoles. Donc, c'est vrai que ça faisait gagner des terrains au moment où, effectivement, on avait besoin de terres agricoles. Mais le problème, c'est qu'après, on les a habités, ces terrains-là. Et donc, effectivement, ces zones qui sont sous le niveau marin ou proches du niveau marin, si la digue est abîmée, effectivement, il y a des risques de submersion associés à des problématiques d'érosion. Donc, par exemple, c'est le cas de Combrite, l'île Tudy dans le Finistère Sud. On a aussi... dans le Finistère Nord, le littoral de Guisseny, avec la digue du Curnic.
On va en reparler, d'ailleurs, voilà. Je crois.
Et puis, on a d'autres territoires qui sont menacés par la submersion marine, comme l'île de Sein, associée à des problématiques d'érosion côtière également. On a Carantec, érosion et submersion, qui menacent le littoral. Et puis, on a évidemment aussi la problématique de l'érosion côtière sur les falaises, qui ne peuvent que reculer. Donc voilà, la problématique d'érosion, elle est naturellement là. Et on a par exemple l'exemple de Telgruc-sur-Mer, où on a l'érosion de falaises qui sont peu résistantes et en fait qui menacent l'accessibilité du GR34, le sentier de grande randonnée. Et donc bah, voilà, ça fait aussi partie des risques.
Ah oui, même les falaises qu'on pourrait croire plus rocheuses ne résistent pas forcément, quoi.
En fait, on a un peu l'image d'Épinal qu'en Bretagne, c'est de la falaise granitique, mais en fait, c'est très varié. Hein. En presqu'île de Crozion, il y a beaucoup de falaises variées. On a par exemple le site du Verriat qui est assez emblématique avec une magnifique coupe géologique avec plein de variétés de roches qui bordent les falaises.
Comme on fait beaucoup de géologie sur Radio Évasion, j'imagine que les auditrices et les auditeurs le savent. Alors Maxime Carnac, c'est vous qui allez nous présenter ce fameux risque au rêve, cet outil, enfin le projet et l'outil en fait, quoi.
Ça. Alors justement, avec l'objectif de mieux se sensibiliser aux risques que vient de décrire Pauline, le projet propose à un utilisateur de vivre virtuellement, et donc sans danger, un événement entraînant ces risques d'érosion ou de submersion, tels qu'une tempête ou bien la montée du niveau marin, tel que prévu par des scénarios climatiques. Alors comment faire ? Aujourd'hui, il existe plusieurs types de technologies de plus en plus accessibles, l'univers des jeux vidéo s'en est très bien emparé, qui permettent de reconstruire virtuellement son environnement et qui soient de plus en plus fidèles à la réalité. Alors il y a ce qu'on appelle la réalité virtuelle, où l'utilisateur est muni d'un casque de réalité virtuelle. L'utilisateur est totalement immergé dans un monde créé numériquement, imaginaire ou fidèle à la réalité. Et cette technologie crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir et donc être acteur de son expérience virtuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée. Là, c'est un petit peu différent. On n'a pas de casque, mais plutôt un téléphone ou une tablette. Et le principe est d'ajouter un élément virtuel dans son environnement réel. Alors, je vous explique par un cas concret. Par exemple, IKEA a très bien compris le principe. Imaginons que je suis chez moi, dans mon salon, et je veux voir ce que donnerait le super canapé que j'ai repéré en magasin. Alors, avec l'aide de mon tablette ou de mon smartphone, je peux voir donc à travers l'écran et intégrer ou superposer ce canapé virtuel dans mon salon, dans mon environnement réel.
Donc une vidéo avec laquelle il y a des données. Enfin, pas seulement des objets, ça peut être des données d'ailleurs.
Ça peut être tout type de données que l'on peut mettre en virtuel, exactement. Et l'avantage de cette technologie, c'est aussi de pouvoir collaborer entre nous. On peut être à plusieurs autour de cette tablette ou de ce smartphone, alors qu'avec le casque de réalité virtuelle, je me coupe un petit peu de la réalité et du monde qui est autour, parce que je suis dans un monde vraiment virtuel et numérique. Et enfin, il y a ce qu'on appelle aussi la réalité mixte. Et en fait, c'est l'ensemble de ces deux technologies combinées, réunies.
Et donc, risque au rêve, c'est plutôt du mixte, c'est ça?
Alors, justement, en fait, au niveau du mixte, donc risque au rêve a été conçu et créé en fait pour l'état des lieux sur les risques côtiers que nous a présenté Pauline. Avec la connaissance de l'essor des technologies immersives que nous a présenté Maxime. Et donc, dans ce consortium en fait, de recherche et de formation qui était l'UBO, que vous avez décrit tout à l'heure, et l'École nationale des ingénieurs de Brest, qui est l'ENIB, on a décidé en fait, de créer un projet Risque au rêve, donc pour risque côtier, réalité virtuelle et environnement virtuel. Pour justement en 2020 répondre à ces questionnements-là. Donc Risque au rêve a pour ambition en fait de jumeler les deux pour ces outils complémentaires. Donc d'une partie la collaboration en fait par la réalité augmentée sur le terrain et puis une partie pour vivre une expérience immersive avec les élus et les gestionnaires vraiment dans un second temps. C'est vraiment deux outils complémentaires dans ce projet-là. Donc c'est un projet de co-construction et de formation sur 3 ans avec des étudiants, mais aussi des élus et des gestionnaires de collectivités.
Oui, c'est ça. Donc vous avez impliqué la géographie, justement, concrète. Est-ce que d'abord vous étiez quand même inspiré d'exemples qui existaient déjà ailleurs ? Je crois que oui.
Oui, effectivement. En fait, la problématique des risques côtiers, elle est très prégnante, notamment dans le contexte du changement climatique. On voit bien aussi que l'État a mis en place certaines lois qui changent un peu la gestion du littoral. Et donc, on est face à des collectivités qui sont de plus en plus conscientes des aléas et des risques côtiers et qui souhaitent aussi sensibiliser leur population pour amener en fait, à des stratégies de gestion du littoral qui soient effectivement adaptées au littoral de demain. Et donc, en fait, il y a eu un projet qui a été mené par Stéphane Costa à l'Université de Caen. Il y a un projet qui s'appelle Rêve Côte et en fait qui avait pour but de favoriser l'appropriation de la connaissance des aléas côtiers et des risques côtiers aux élus. Et donc, le choix, ça a été d'utiliser justement l'immersion.
Réalité virtuelle, là, pour le coup.
La réalité, ouais. Voilà, immersive pour, en fait, proposer aux élus de se positionner dans une rue, par exemple, à Étretat, et de revivre un événement historique majeur, qui était, par exemple, la tempête de février 90. Et donc, on enfile un casque et, en fait, on vit l'expérience de la tempête de février 90. Et puis, il y a une deuxième expérience qui est faite, cette fois-ci avec le niveau d'eau de la tempête, plus l'intégration du changement climatique. Et donc, l'objectif, c'est de faire vivre l'événement, mais aussi de se projeter sur quel sera le littoral de demain et comment l'aménager. Et donc, en fait, on s'est inspiré effectivement de ces travaux innovateurs menés par l'Université de Caen, mais on y a rajouté des éléments supplémentaires, puisque effectivement, le projet Rêve Côte développé à Caen, il s'intéressait qu'à la submersion marine. Donc nous, on a souhaité y ajouter l'aléa d'érosion côtière, notamment l'érosion des falaises, avec l'enjeu du GR34.
Les randonneurs qui tombent, en fait, quoi.
Bah, en fait, c'est pas tellement les randonneurs qui tombent, hein. J'espère qu'ils vont pas tomber.
Non.
Mais c'est que, effectivement, les communes, notamment en Bretagne, où le GR est très important et n'a été que peu coupé, en fait, il y a quand même des problématiques d'aménagement. C'est-à-dire, comment on fait pour garantir cette servitude? Et puis, bah voilà, il y a une forte appropriation de ces sentiers. Donc, bah voilà, c'est un enjeu important.
Ouais, parce qu'il faut revoir le tracé, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, on arrive chez des propriétaires qui veulent pas forcément qu'on passe au fond de leur jardin, quoi.
Et puis, l'intérêt du GR, c'est quand même la proximité du littoral.
Et oui.
Donc, voilà.
Si on voit plus la mer, c'est moins bien.
C'est moins bien. Donc voilà, et en plus par rapport à Rêve Côte, on a aussi souhaité co-construire avec les élus et les gestionnaires les scénarios, puisqu'en fait les gestionnaires et les élus ont déjà un volet de sensibilisation qui peut être déjà mis en place, et donc on veut les aider à rendre les choses un peu plus concrètes avec un autre outil qu'est la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Et puis aussi, on avait le souhait d'intégrer les étudiants dans cette aventure parce qu'ils ont une culture numérique qui est bien plus importante que la nôtre. Et donc, voilà, on peut faire des choses. Et puis, sachant que cet environnement immersif, nous, on veut qu'on soit acteur dans l'immersion. C'est-à-dire qu'on vit l'événement, mais on peut y faire des choses. On
Par
peut
exemple.
Mesurer le niveau d'eau. Mmh. On peut essayer, dans la maison qui va être victime de la submersion, d'aménager l'intérieur, comme des bazars d'eau pour limiter l'entrée, etc. Donc, il y a vraiment ce volet immersion et interaction de l'utilisateur.
Ouais, sinon, ça serait trop anxiogène. Enfin, c'est ça.
Alors,
aussi, non ?
C'est pas vraiment le fait que ce soit anxiogène, mais en fait, si on est acteur, notre cerveau l'intègre comme un vrai événement. C'est donc une expérience vécue. Et donc, en fait, si jamais on vit ce risque, on saura mieux quoi faire.
D'accord. Ouais, c'est aussi un entraînement, en fait, quelque part, quoi.
Exactement.
Ah oui. Et les élus, juste une parenthèse, mais les élus, on va y venir, hein, globalement, en Bretagne, sur le territoire que vous travaillez, est-ce que vous trouviez que les élus étaient déjà bien conscients du problème, ou est-ce que c'était un peu le phénomène Zintia? On a des permis de construire, on a une pression de la population pour construire. Enfin, c'est que, je sais pas, Pauline,
Je pense que c'est assez hétérogène. Il y a vraiment des communes qui sont très impliquées, hein, sur le volet sensibilisation, et d'autres qui le sont moins, mais en fait, on est à une période charnière où là, en fait, il va falloir penser à l'aménagement de demain, notamment avec des évolutions législatives, avec la fameuse loi climat et résilience qui est passée en été 2021. Donc là, on va passer à effectivement un changement dans la façon de gérer le littoral, et il va falloir imaginer quel sera le littoral de demain pour l'habiter autrement.
Et alors, pourquoi c'est la communauté de communes de Lesneuvin Côte des Légendes qui a été retenue, entre guillemets, pour le projet?
Alors, en fait, on a deux communes qui sont retenues. Pour l'aléa submersion marine, effectivement, ça va être la commune de Guisseny qui appartient à la communauté de communes Lesneuvin Côte des Légendes. Et puis, on a également, pour l'érosion côtière et mon fameux sentier de grande randonnée, ça va être Plougonvelin. Alors, en fait, le choix des communes, il se fait selon plusieurs critères. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des aléas et des enjeux pour qu'il y ait risque. Ensuite, il faut qu'on ait des données à disposition. Et puis également, qu'on ait des élus et des gestionnaires qui soient partants dans le projet, puisqu'il ne s'agit pas de mener un projet sans eux. Mmh. On souhaite les avoir avec nous pour, en fait, les aider dans leur volet de sensibilisation. Donc, nous, on le voit vraiment comme un partenariat. Et donc, bah, par exemple, Guisseny, hein, c'est vraiment une commune sur laquelle il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec les élus et les gestionnaires, aussi bien dans le cadre de l'université, avec des suivis de profils de plage, par exemple, ou bien dans le cadre d'observatoires. Je pense à l'observatoire Osiris, donc l'observatoire des risques côtiers en Bretagne. Et également, hein, on a une équipe d'élus et de gestionnaires qui sont vraiment à la pointe dans la sensibilisation, avec une stratégie locale de gestion du trait de côte, avec des réunions publiques sur les allées et les risques côtiers. Donc voilà, on a quand même des partenariats qui sont forts et où on sait que, bah, effectivement, ils vont être partants dans l'aventure parce qu'ils ont déjà avancé sur un certain nombre de points.
D'accord, ça a déjà commencé. Enfin, on va revenir sur la collecte des données, mais juste, je voulais faire une parenthèse plus pédagogique avec vous, Riolène Ruot, sur l'intérêt pédagogique de ce genre d'outils, enfin, certes réalité virtuelle et puis autres, hein, qui vous ont inspiré aussi pour le projet.
Alors, sur le plan pédagogique, il y a toutes les technologies immersives. On sait que la culture numérique, hein, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, fait partie, en fait, de notre quotidien. Donc déjà, c'est beaucoup plus inspirant. Alors, apparemment, en termes d'impact sur l'appréhension, en fait, de nos thématiques, hein, qui est autour des risques côtiers, l'idée, c'est pas de la rendre encore plus anxiogène en vivant l'expérience, c'est vraiment de la rendre dans une certaine culture et un apprentissage beaucoup plus profond. On sait très bien qu'un meilleur message est mieux passé si il est accepté et appréhendé, en fait, comme ancré en nous. Donc, les technologies, en fait, pour toutes les choses, sur, enfin, toutes les la plus-value que nous a décrit Pauline et Maxime tout à l'heure, c'est pour ça que, ben, on s'est inspiré beaucoup, en fait, de ces apprentissages profonds. Et c'est aussi pour ça que Risque au Rêve, on s'adosse pas uniquement à un projet de recherche. C'est aussi, donc, une démarche co-construite, en fait, avec les gestionnaires et les élus, mais également avec nos différents rôles et nos différentes implications pour que justement on ait des apprentissages plus profonds avec ces technologies. Pauline Le Tortue, qui est coordinatrice du projet, hein, de Risque au Rêve, elle est aussi spécialiste, en fait, de la thématique des aléas côtiers, comme elle nous le décrit très bien depuis tout à l'heure. Et Maxime, qui a plutôt le rôle d'ingénieur et qui développe, en fait, tous ces environnements virtuels, donc avec cette donnée dont on parlera tout à l'heure. Et on a Ronan Kérec, qui est aussi spécialiste des environnements virtuels d'apprentissage humain.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il analyse et génère, en fait, des modèles qui permettent une appréhension et vraiment un apprentissage dans des environnements immersifs.
Et par exemple, il y aurait un côté jeu sérieux dans Risque au Rêve à terme
Pourquoi pas, ça peut être une influence. Alors pour l'instant, c'est pas l'idée. L'idée des influences pédagogiques, c'est aussi de faire un peu l'histoire dont vous êtes le héros, donc de créer son propre scénario adapté à son territoire. Tout en ne négligeant pas, en fait, les grandes orientations autour du changement climatique et des impacts que ça peut avoir sur notre territoire, mais en ancrant, en fait, dans nos scénarios que les élus et les gestionnaires peuvent appliquer sur leur propre territoire. Donc Guisseny, en l'occurrence, pour notre projet. Donc on s'inspire un peu de serious game ou de jeu sérieux, puisque là, on est appliqué à une thématique un peu moins ludique que ce qu'on pourrait faire au quotidien. Mais on s'en inspire, oui, à travers la construction de scénarios.
Alors, on est à la moitié du projet Risque au Rêve. Maxime Carnec, c'est vous qui fabriquez l'outil. Il y aura un outil, vraiment. Enfin, on va pouvoir l'expérimenter à la fin.
Tout à fait.
C'est ça.
Il y a des prototypes en cours pour l'instant,
ouais.
Donc développés avec aussi les étudiants de l'ENIB. Et le but, c'est d'arriver à une immersion totale dans un casque de réalité virtuelle ou en réalité augmentée.
Alors, non seulement ça sera impressionnant, sans doute, mais en plus, ça sera scientifiquement valide, c'est ça? Alors, comment vous collectez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Quelles sont les données dont vous avez besoin? Comment vous les collectez, etc.?
Voilà, tout type de données qui permet, en fait, de reconstruire un modèle 3D. Donc, ces données, elles peuvent déjà exister sur certains sites, hein, notamment, et être issues de précédentes campagnes scientifiques. Et il y a des sites emblématiques, notamment les falaises de Porcemilin, dont a parlé Pauline, où en fait il y a des mesures et des relevés de données qui sont faits chaque année et depuis des dizaines d'années. Donc l'université et l'observatoire Osirisk possèdent vraiment une base de données très riche. Ou bien ces données, elles peuvent aussi être le fruit de travaux étudiants, notamment les étudiants de niveau master qui travaillent avec nous et en expertise et gestion du littoral, qui sont amenés par leurs études à travailler avec les collectivités et les élus et à aller sur le terrain pour faire des mesures et récolter des données dont on peut se servir pour le projet.
Oui, qu'est-ce qu'ils mesurent par exemple ?
Alors nous, c'est des données en fait, qui nous permettent de reconstruire un modèle en 3D. Donc à l'aide de drones ou de caméras, on est capable de prendre des photos et de reconstruire après un modèle en 3D à partir de nuages de points ou de tout type de points qui nous servira après pour mettre dans nos logiciels.
Et ça inclut, par exemple, la faune et la flore ou pas ? Vous n'allez pas jusque-là ?
On aimerait bien, c'est sûr que... Mais on, pour l'instant, non. C'est vraiment juste le paysage, l'environnement, sans inclure vraiment de vivant.
La morphologie, quoi.
Exactement.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, question qui me vient en passant, c'est que dans ce projet RISC-OREF, est-ce que vous intégrez aussi, de temps en temps, des chercheurs en sciences sociales, voire en psychologie sociale, enfin, parce que là, oui, Pauline,
oui,
Le Tortue.
Effectivement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si ces environnements immersifs permettent un changement de pratique. Et donc, pour savoir ça, il faut effectivement l'évaluer. Ce n'est pas notre domaine de compétence à nous trois, donc en fait, on va faire appel à des psychologues environnementaux, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent justement aux représentations des gens pour pouvoir un peu les caractériser, même si c'est difficile hein, de caractériser l'humain. Mais voilà. Et en fait, pour savoir si effectivement, lorsqu'on a vécu un aléa dans un environnement immersif, est-ce que ça va changer nos pratiques futures ? Est-ce qu'on va être plus à même de réfléchir sur qu'est-ce que je dois changer dans ma vie de tous les jours ? Comment je vais changer ma vision de l'aménagement du littoral de demain, etc. Donc, effectivement, il y a tout un volet sur la psychologie environnementale qui va être développé parce que c'est essentiel. Mais peut-être que Riwellen a d'autres éléments.
Il y a aussi un autre volet qui est sur la psychologie cognitive, en fait, qui est surtout sur les environnements virtuels. Justement, Ronan Kerek travaille dans un laboratoire qui est le Centre européen de réalité virtuelle. Et c'est ce qu'ils calculent, c'est ce qu'ils analysent, en fait, de se nourrir de l'intelligence artificielle pour voir si nos pratiques s'améliorent au fur et à mesure des manipulations dans un environnement immersif. Donc, il s'appuie aussi beaucoup sur des psychologues cognitifs, sur des didacticiens, pour analyser, en fait, ces pratiques inhérentes à l'environnement immersif. Donc, c'est vraiment complémentaire, en fait, des sciences naturelles, des sciences sociales et des sciences humaines, parce qu'on est sur des thématiques en fait qui recoupent vraiment beaucoup de champs de recherche.
Et de ce qu'on en sait, ça fonctionne jusqu'à présent, la réalité immersive.
Alors que c'est ça aussi la nouveauté du projet, puisque pour l'instant, les technologies immersives ne se sont pas beaucoup orientées vers des processus géographiques ou des questionnements scientifiques généralistes, beaucoup sur des technologies industrielles pour des procédures et des manipulations. Donc, nous n'avons très peu de retours d'expérience sur l'appréhension et la culture du risque avec ces technologies immersives. C'est pour ça que c'est un gros questionnement de recherche actuel.
Et ça sera plus tard, ça. Enfin, ça sera quand l'outil sera plus avancé, c'est ça, ouais.
C'est en cours.
Ouais. Ce sera en fait... alors là, on réfléchit aux questionnaires à mettre en place, etc. Mais en fait, ce sera à la fin du projet où on aura suffisamment de recul pour mener une enquête avant avoir testé les environnements immersifs, et puis après. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une mesure, non pas quelques mois après avoir vécu cette expérience, mais un petit peu après, sur du moyen terme, puisque c'est ça aussi qui va être intéressant.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un volet science participative dans RISC-OREF ou pas encore, non ?
Non, il n'y aura pas de volet science participative. Mais par contre, on est vraiment sur la co-construction avec les élus et les gestionnaires, puisque l'objectif, c'est qu'effectivement, on aide les élus et les gestionnaires à sensibiliser sur ces problématiques. Donc, c'est vraiment de la co-construction, mais ce n'est pas ce qu'on appelle les sciences participatives.
Alors, pour l'instant, vous avez quand même des retours d'expérience de la part de ces élus, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous disent jusqu'à présent, Maxime Kernec?
Alors, on a eu la chance de pouvoir se rendre à la mairie de Guisseny au mois de décembre et présenter le projet devant une table d'élus avec le maire. Donc, c'était pour nous la première fois. Et même les étudiants sont venus avec nous. Et donc, le dispositif a été très bien reçu. Ils ont hâte aussi de tester la réalité virtuelle. On leur a présenté le projet comme on vient de vous le faire. Ils sont en tout cas très réceptifs.
Et on a validé justement avec eux les premiers scénarios, en fait. Donc dans notre deuxième année, on a validé pour le territoire de Guisseny les premiers scénarios qu'ils pourront faire en réalité augmentée, mais également après en réalité virtuelle.
Combien de scénarios, en gros?
Pour l'instant, un, voire deux à Guisseny, pour un scénario plutôt érosion et un scénario submersion, en priorité, on vient de valider le scénario submersion, mais il y a un scénario érosion, pourquoi pas, pour la suite à Plougonvelin. Et justement, dans cette dynamique de premier résultat, on veut aussi le comparer à d'autres territoires. Donc pour continuer, en fait, Plougonvelin sera notre deuxième vraiment territoire de travail. Et on a cette volonté aussi de comparer des territoires européens avec ces mêmes questionnements-là, des expertises autour des aléas côtiers, des mêmes questionnements qui peuvent se poser. Et vraiment de comparer notre démarche pour savoir si ce triptyque en fait thématique autour des aléas côtiers, technologie immersive et transformation et conduite de changement de pratique, si vraiment ça marche parce qu'on est très bon en Bretagne ou si aussi sur d'autres territoires on est aussi assez sensible à ces questionnements.
Ben vous reviendrez nous raconter tout ça d'ici un an et demi à peu près quand le projet touchera à sa fin.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.